amis auditeurs, bonsoir. Comme tous les samedis, vous êtes avec Science à l'antenne, une émission réalisée en collaboration Radio Campus, Cap Science. Un sujet aujourd'hui qui intéresse peut-être un petit peu plus notre public, à la fois Cap Science et Radio Campus, celui des chercheurs, des étudiants au sens large du terme, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la culture dans son meilleur sens. Comment publier les sciences autrement? Et je crois que « autrement » est un mot-clé de cette émission que nous allons réaliser avec Sylvain Dalzon, qui est chargé de recherche à l'INRA, mais qui va se présenter comme c'est notre habitude, puisque pour Cap Science, c'est un nouveau, même si ce n'est pas un nouveau pour Radio Campus. Sylvain, vous êtes à l'INRA, chargé de recherche, ça veut dire quoi? On recherche quoi, là?
Bon, l'INRA, c'est l'Institut de Recherche Agronomique, et chargé de recherche ou chercheur à l'INRA, j'ai en charge en fait un projet de recherche. Le mien se tourne autour de la thématique de l'écologie forestière, de l'écophysiologie, c'est-à-dire j'essaie de comprendre comment fonctionnent les forêts, notamment en réponse au changement climatique, comment les espèces vont se déplacer, comment les arbres fonctionnent en lien avec la sécheresse par exemple.
Bon, donc ça veut dire que pour nos amis auditrices et auditeurs qui ont écouté Les Ennemis de la Forêt, vous avez l'occasion de travailler avec Jean-Christophe Domecq.
Oui, souvent.
Qui est un de vos collègues à l'INRA.
Oui, et Bastien également.
Voilà, et Bastien également. Bon, ce qui prouve bien que le monde scientifique est aussi rhizomatique, je lance l'adjectif, c'est un néologisme, que la réalité sur laquelle vous travaillez. Bon, votre discipline d'origine, c'est quoi, vous?
Alors, j'ai fait mon doctorat en écophysiologie végétale. Alors, l'écophysiologie végétale, c'est quoi? C'est de la physiologie de la plante pour comprendre l'écologie de la forêt.
Donc, comment elle est faite pour qu'elle puisse s'adapter au système dans lequel elle vit?
Je prends un exemple, comment la plante peut transporter de l'eau dans ses vaisseaux. Ça permet de comprendre comment la forêt va utiliser en fait l'eau pluviale, comment elle va pouvoir résister à la sécheresse lors d'événements comme 2003, 2014 également.
Bon, votre parcours, vous avez fait un doctorat, donc vous étiez un biologiste, un physiologiste, vous avez fait des études où? Vous êtes bordelais, vous avez fait vos études à Bordeaux?
Alors non, je suis du Lot-et-Garonne, pas très bien, mais j'ai effectué mes études à Bordeaux, en partie en tout cas, les premières années d'université. Ensuite j'ai effectué un DEA, donc c'était l'ancien système, je suis assez vieux maintenant.
Oui, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas au micro de toute façon.
Donc j'ai effectué mon DEA à Paris, à l'INAPG, ce qui est une école d'agronomie. Et ensuite, j'ai effectué un doctorat à l'INRA, donc en écophysiologie végétale. Et puis, j'ai effectué deux post-doctorats, dont un dans le Montana, dans l'Université du Montana aux États-Unis, toujours sur le fonctionnement des arbres et la compréhension en fait, de la réponse des forêts au changement du climat.
Et le Montana est un lieu extraordinaire. Vous avez fait du cheval aussi, peut-être?
Non, mais j'ai beaucoup pêché à la mouche.
Parce que, véritablement, le Montana, le Wyoming, c'est encore... ce qui aux États-Unis ressemble un petit peu à ce paradis dont nous parlons tous, hein. L'eau plus près de la nature, même si les gens y ont des habitudes que les films d'aventure nous ont appris à connaître aussi. Hein.
Oui, c'est
belle expérience, le Montana.
Très très belle expérience. Hein. Donc c'est là où on peut pêcher la rivière que l'on voit dans le film et au milieu couler une rivière. Donc c'est vraiment pour la pêche, c'est un paradis.
Voilà. C'est de l'eau. Alors nous allons parler aussi, à partir d'un sujet que vous connaissez bien, qu'est-ce que c'est qu'une plante hydrique?
Alors, je voulais dire le fonctionnement hydrique d'une plante. Alors, le fonctionnement hydrique, on peut dire aussi le fonctionnement hydraulique d'une plante, c'est en gros étudier la plomberie de la plante, c'est-à-dire comment sont agencés les vaisseaux pour transporter l'eau. La plante transporte de l'eau qui est tirée depuis les feuilles et absorbée au niveau du sol. Donc je commence bien par les feuilles parce que la plante ne pousse pas l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles, mais c'est bien les feuilles qui tirent l'eau depuis les feuilles jusqu'à la racine.
Merci de l'avoir précisé.
Et l'eau sert majoritairement à refroidir comme la transpiration chez l'homme, sert à refroidir en fait les températures de surface au niveau des feuilles. Et dans un deuxième temps, elle sert aussi à transporter les éléments minéraux comme l'azote depuis le sol jusqu'aux feuilles pour la photosynthèse.
Oui, ça veut dire que quand on a des plantes d'intérieur, pulvériser de l'eau, c'est pas simplement enlever la poussière.
Non, ça permet une absorption foliaire également, oui.
Et ça qui n'est pas inutile, bien entendu. Bon, alors, hydrologie, hein, hydrique, oui, bien sûr, et l'hydre de Lerne, qui avait tellement de racines style poulpe ou pieuvre, qu'on l'a appelé hydre, parce que c'est la même racine, sans jeu de mots du tout. Bon, alors, vous travaillez dans ce domaine depuis longtemps, il y a beaucoup de chercheurs.
À travers le monde, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, il y a énormément de laboratoires.
C'est un domaine privilégié de la recherche autour des plantes.
Alors, si on compare à de la neuroscience ou des gens qui travaillent en fait sur, par exemple, les réponses de la douleur chez le rat, nous sommes très peu nombreux. Voilà. On va dire qu'il y a à peu près une vingtaine de laboratoires à travers le monde. Pour moi, je considère qu'on est assez nombreux, mais c'est vrai que si on se compare à d'autres disciplines, nous sommes très très peu nombreux. Oui.
Donc, l'idée d'avoir une publication spécialisée dans le domaine du fonctionnement hydrique des plantes, vous est venue tout seul ou vous avez travaillé en groupe ?
Alors, donc l'idée nous est venue, au départ c'était plutôt une blague entre moi et un collègue de l'INRA de Clermont-Ferrand. Mais effectivement, il y avait une absence de journal sur l'hydraulique des plantes. Et il y avait de plus en plus, c'est une discipline qui est en émergence et il y a de plus en plus de chercheurs. Donc il y a peut-être une quinzaine d'années, je pense qu'il n'y avait que trois laboratoires dans le monde qui travaillaient sur l'hydraulique des plantes. Il y en avait un en France, à Nancy, à Harvard et un autre, je crois, dans l'Utah, aux États-Unis. Donc il y avait que trois laboratoires. Et puis c'est une discipline qui a émergé dans les années 90, notamment avec l'apparition de techniques qui ont permis de mesurer l'hydraulique des plantes. Et à l'heure actuelle, donc j'ai dit, il y a plus de 20 laboratoires qui sont spécialisés sur l'hydraulique. Après, il y a énormément de laboratoires qui mesurent aussi les capacités de la plante à transporter de l'eau à travers le monde, en utilisant les techniques qui ont été mises en place dans ces 20 laboratoires. Et donc il y avait vraiment un besoin d'un journal spécifique, spécialisé pour l'hydraulique des plantes. Et puis avant que nos amis australiens ou américains ne le fassent, on a décidé avec notre collègue français de se lancer. Alors pour la petite anecdote, au départ c'était une blague, puisque le journal ne s'appelait pas Journal of Plant Hydraulics, mais Journal of Sigmoidal Plant Hydraulics. Donc c'était très très spécifique et c'est surtout une blague en réponse en fait à un débat que nous avons avec un laboratoire américain depuis maintenant 5-6 ans. Nous sommes en fort désaccord avec nos amis américains sur un point ou sur la forme des courbes que l'on obtient en mesurant l'hydraulique des arbres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les notes sont sigmoïdales, elles forment un S, et les leurs forment un R, donc elles sont exponentielles. Ce qui change fondamentalement en fait la compréhension du fonctionnement de la plante, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, pour leur faire un petit pied de nez, nous avions rajouté sigmoïdal dans le titre. Et puis, on s'est pris au jeu, c'est devenu de plus en plus sérieux, puis on a sorti ce mot-là et on a créé vraiment une revue très sérieuse, donc qu'on appelle JPH maintenant, et qui est hébergée par l'INRA.
Hébergée par l'INRA France.
Oui.
D'accord, donc c'est l'Institut National de Recherche Agronomique qui pilote cette revue. Bon, la publication des revues scientifiques, c'est quelque chose de fondamental, puisque la devise du chercheur, c'est « publish or perish », comme disent les gens du monde anglo-saxon, « publier ou mourir hein, », c'est pas « vivre ou mourir », c'est pas « trouver ou mourir », c'est « publier ». Donc le monde de la publication est un monde très compliqué, que vous avez commencé à apprivoiser, comment vous y êtes pris ? Et deuxième partie de ma question, on parlera ensuite, le monde de la publication scientifique aujourd'hui a connu une transformation, presque une révolution, à cause, comme dans d'autres domaines, de l'Internet. Donc, premier, comment vous y êtes pris pour créer votre première revue ? Directement sur Internet ?
Oui, il est beaucoup plus facile de créer une revue à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé, sinon on n'était pas assez téméraire pour... il y a 25 ans, je pense qu'on ne se serait pas lancé. Donc effectivement, l'avènement d'Internet fait qu'on n'a plus de format papier. Très très peu de revues ont encore en format papier. Bon, il y en a encore, hein, mais les abonnements papier sont en chute libre. Et les revues sont accessibles sur le net. Donc, pour notre revue, nous avons uniquement créé un site internet hébergé par un serveur INRA, dans lequel nous avons un certain formatage hein, d'édition scientifique qui permet donc aux lecteurs de lire les articles, d'une part, et aux auteurs de soumettre leurs articles.
Très bien. Donc, vous avez déposé un titre, vous avez déposé un site, et tout fonctionne par le site. Il y a un système d'abonnement.
Alors justement, notre revue s'affranchit de tout problème d'abonnement, c'est-à-dire que notre revue, elle est gratuite. Et elle est gratuite à deux titres. Elle est gratuite à la publication, donc c'est ce qu'on appelle « free of charge », donc l'auteur n'a pas besoin de payer pour publier dans notre revue. C'est un point fondamental. Le deuxième, c'est qu'elle est « non for profit », comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est une gratuité non lucratif. Et puis, le dernier point qui est beaucoup plus connu par les chercheurs, c'est qu'elle est « open access », c'est-à-dire qu'elle est gratuite à la lecture. Alors, il ne faut pas confondre « open access » et « free of charge », par exemple, parce qu'il y a énormément de revues en « open access » qui sont dirigées par des sociétés privées. Et qui demande par contre une somme d'argent conséquente au moment de la publication. Donc il y a un but lucratif derrière. Et donc le chercheur est obligé de payer pour publier ses résultats dans cette revue. Mmh. Ça peut engendrer quelques dérives notamment. On pourra peut-être en parler. Mais
tout à fait. Parce qu'effectivement, dans ce monde de l'Internet où il est nécessaire de comprendre l'anglais, même si on ne sait pas le parler. Bon, vous avez vécu au Montana, donc vous n'avez pas de problème.
Oui, j'ai l'accent du cowboy du Nord-Américain.
Mais c'est très bien, parce que tous les accents ont même droit de citer. Pour moi qui ai été pendant très longtemps un angliciste, j'apprécie particulièrement les accents qui ne sont pas soit official Boston, ou bien official London BBC.
Il n'y aura pas de problème avec moi, alors.
Là, aucun problème. Mais c'est vrai que open access, alors pour les naïfs que nous sommes tous, quand nous n'avons pas une idée d'anglais, bah ça va, c'est gratuit. Puis après, on s'aperçoit que l'open access, il y a toujours des choses derrière. Hein, il faut lire les petites lignes.
Oui, clairement. Et donc, il y a pas mal de personnes qui font un amalgame, justement, en open access, en disant, parce que quand l'open access est arrivé, tout le monde s'est dit, ah voilà, il faut publier plus qu'un open access. Et puis, finalement, on a vu une ribambelle de journaux qui ont été créés par des sociétés, ouais. Et qui sont hébergés dans différents types de pays, et qui sollicitent même les auteurs pour publier chez eux. Mais quand on lit dans le détail, il faut payer 2000 euros, par exemple, pour publier un article.
Ce qui veut dire que derrière Open Access, il y a le vieux problème de l'édition papier qui est compte d'auteur. D'une certaine façon, vous avez accès à la lecture, bien sûr, mais si vous voulez publier, c'est vous qui payez de votre poche. À moins que ce soit votre laboratoire qui paye à votre place. Mais c'est finalement quelque part du compte d'auteur, comme on dit dans le...
Oui, c'est le laboratoire qui paye, mais en fait, ça veut dire quand même qu'on peut acheter un petit peu notre publication. Sachant que vous avez parlé de publish or perish, donc effectivement, le scientifique, à l'heure actuelle, est obligé de publier, donc bien sûr pour communiquer ses résultats. Si on fait des recherches dans notre coin sans les publier, ça ne sert à rien. Il faut bien sûr communiquer dessus, les rendre publiques pour qu'elles soient notamment critiquées par nos pairs, par nos collègues, ou bien qu'elles soient citées parce que, par exemple, elles ouvrent une voie et donc d'autres chercheurs rebondissent sur ces résultats-là. Et deuxièmement, donc, c'est extrêmement important pour le chercheur puisque la publication fait partie intégrante en fait, de la promotion au niveau de sa carrière. Sans article, pas de promotion ou voire pas de carrière. Donc c'est pour ça qu'est devenu ce slogan-là, Publish or Perish.
Tout à fait.
Et donc il y a depuis quelques années maintenant une course à la publication effrénée, puisque pour obtenir un poste, il faut avoir publié, pour avoir une promotion dans le cadre de ce poste, il faut avoir encore plus publié.
Oui, et c'est heureux parce que pendant très longtemps, les Français ne le savent pas. Le vieux système du doctorat d'État interdisait aux chercheurs de publier avant d'avoir soutenu. Ce qui explique pourquoi des chercheurs américains, australiens, allemands pouvaient découvrir 3 ou 4 ans après vous des choses que vous n'aviez pas le droit de publier. Dieu merci, ça a changé. Ceci étant, il faut faire le tri.
Non, là, je suis complètement d'accord. En fait, moi, j'incite tous mes étudiants à publier pendant dans le cadre de leur thèse.
Bien sûr, mais c'est devenu aujourd'hui la règle.
Oui,
c'est
la règle.
C'est un renversement magnifique.
C'est la règle numéro un. C'est-à-dire que nous, je crois, dans notre école doctorale, il faut avoir au minimum un article en premier auteur pour un étudiant pour pouvoir soutenir sa thèse. Et je pense que c'est un minimum, oui.
Oui, c'est une révolution copernicienne. Alors, comme on peut le dire, c'est vrai que le paradigme de l'édition scientifique, à cause de la révolution Internet, a changé.
Oui, complètement. Donc, avant, le gros problème était de pouvoir faire le choix des revues. Parce qu'il fallait que les bibliothèques s'abonnent à ces revues. Donc, il y avait un certain nombre de formats papier, de revues en format papier auxquelles il fallait s'abonner. Mmh. Et donc, il fallait bien les classer, ces revues. Savoir quelle était la meilleure revue, quelle était la plus mauvaise. Et puis, si on faisait bien son travail, on s'abonnait aux 100 meilleures revues et puis on laissait les autres. Donc est né ce qu'on a appelé le facteur d'impact en français, ou l'IF, l'impact factor en anglais. Et c'est cet indice qui, malheureusement, vient bouleverser un peu notre façon de travailler, et puis surtout a une très très mauvaise influence sur l'édition scientifique. Donc c'est ce que on pourra développer ensemble.
Alors allez plus loin, justement, je vous y autorise tout de suite.
Bah alors juste pour expliquer, donc dans notre revue JPH, on rejette l'impact factor, c'est-à-dire on refuse d'en avoir un. Donc il faut savoir que c'est un indice qui est donné par une société qui s'appelle Thomson, et qui quantifie cet impact factor pour toutes les revues au monde.
Thomson Publishing, c'est ça?
Thomson Reuters Publishing, oui, c'est ça.
D'accord, et plutôt canado-anglais.
Alors maintenant, c'est des multinationales, oui. Je ne pourrais pas vous dire, c'est mondial.
Oui, mais fondamentalement, Thomson, c'est Reuters, on connaît, c'est la grande agence de presse.
Mais je crois qu'il y a eu en plus une fusion récemment entre le Nature Group et Springer, qui au départ étaient allemands, les autres plutôt anglais, mais en fait finalement c'est mondial, donc c'est difficile de savoir.
On est vraiment dans le concept multinational.
Clairement. Oui, okay. Il y en a 5 qui trustent.
On va y venir.
Donc tout ça pour dire que l'impact factor, donc cet IF, je vais l'appeler IF, ça permet en fait aux revues de savoir le nombre d'articles qui ont été cités un certain nombre de fois au cours des 2 dernières années. Donc ça nous donne un petit peu la notoriété du journal. Mmh. Est-ce que ce journal publie des articles qui sont bien cités? Donc, alors qu'au départ, ça partait peut-être d'un bon sentiment, cet indice unique est très très biaisé, engendre en fait une dérive totale au niveau de la publication. Donc je peux donner quelques exemples. Donc par exemple, on voit certaines revues, enfin même beaucoup, qui font une course à l'impact factor, c'est-à-dire qu'elles tendent à avoir le plus grand impact factor. Alors ça pouvait se comprendre lors lorsqu'il n'y avait pas Internet, lorsque c'était en format papier, puisqu'il fallait bien les classer. Mais à l'heure actuelle, avoir un impact factor très fort pour ces sociétés privées, ça n'a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir pouvoir vendre en fait leur journal à un tarif plus élevé aux toutes les bibliothèques universitaires dans le monde et à tous les instituts. Donc c'est vraiment une publicité, c'est-à-dire il vous faut acheter ma revue parce que l'impact factor est de 18 et va être beaucoup plus cher que l'autre revue qui a un impact factor de 3. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment besoin de classer les revues, puisque nous avons accès à toutes ces revues sur Internet. Par mots-clés, on peut rechercher, même sur Google Scholar, on peut avoir des alertes sur, par exemple, tous les articles qui sont sortis avec le mot-clé hydraulique, par exemple, chez les arbres. Et donc on reçoit par mail toutes les semaines tout ce qui a été publié de par le monde. Donc on n'a plus besoin d'avoir ce format papier, de ce classement des revues, et on peut juger de la qualité d'un article, non pas par la revue dans laquelle on l'a publié, mais par la qualité de l'article lui-même, qui peut être quantifié par d'autres indices, comme par exemple tout simplement le nombre de citations de l'article, par exemple.
Bon, alors justement, c'était la question que je voulais vous poser, et vous m'y avez amené naturellement. Comment valide-t-on un écrit scientifique ? Parce qu'effectivement, le problème derrière le facteur d'impact se cache cette façon biaisée de dire les articles que nous oublions sont nécessairement de bons articles.
Oui, et genre justement, j'ai pas fini ma petite anecdote sur cette course à l'impact factor pour certaines revues. Donc il y a des revues, je vais pas citer le nom, mais des revues, notamment des revues françaises par exemple, qui ont souhaité favoriser leur facteur d'impact. Et donc pour cela, au lieu de publier 350 articles par an, ils ont réduit le nombre d'articles à uniquement une cinquantaine. Et sur ces 50 articles, 45 sont ce qu'on appelle des synthèses, où ils invitent des chercheurs très très reconnus dans le domaine à écrire une synthèse. Parce que comme ça, ils s'assurent d'un taux minimum de citations assez important afin de favoriser leur facteur d'impact. Et si on prend à l'opposé, par exemple, la revue de l'Académie des sciences américaines qu'on appelle PNAS, cette revue n'a pas du tout fait ce choix-là. Elle continue à publier énormément d'articles, et notamment des articles expérimentaux. Donc elle prend plus de risques, des articles qui ne sont pas du tout cités et des articles qui sont énormément cités. Et donc en moyenne, l'impact factor de PNAS a chuté, il est de 9 à l'heure actuelle, donc ce qui est bon, mais ce qui n'est pas excellent. Alors que si on regarde d'autres indices, notamment est-ce que cette revue publie des articles exceptionnels en termes de résultats, c'est la cinquième meilleure revue au monde. Donc on voit bien que l'impact factor ne représente pas du tout la qualité, ou en tout cas le risque que prend la revue pour publier des articles de qualité.
Bon, alors, vous, dans votre revue, qui, je rappelle, s'appelle JPH, c'est-à-dire Journal of Plant Hydraulics, vous acceptez tous les articles qui vous sont proposés, ou vous avez un comité de lecture ?
Alors, il y a un comité de lecture, bien sûr. Donc, nous sommes deux éditeurs en chef. Et ensuite, il y a un editorial board qui est constitué de 24 chercheurs à travers le monde. Donc, nous l'avons constitué avant de créer la revue. D'ailleurs, nous avons demandé si toutes les personnes que nous connaissions, voire même uniquement à travers des publications, s'ils adhéraient à notre philosophie et s'ils souhaitaient participer. Et on n'a eu aucun refus. Donc, on va dire que la philosophie qu'on leur a expliquée, que je suis en train de détailler ici, a beaucoup plu à nos collègues. Et donc, nous avons un editorial board qui est constitué des meilleurs scientifiques dans le monde dans ce domaine-là. À chaque fois qu'on reçoit un article, un de ces éditeurs est mandaté pour, on va dire, éditer l'article, c'est-à-dire trouver des experts pour le reviewer et puis prendre une décision finale. Donc les articles sont tous, on va dire, expertisés par nos pairs.
Par vos pairs qui sont...
On appelle ça de peer review.
Ah, c'est ce que les sociologues appellent peer-to-peer, mais c'est la notion d'égalité, puisque un pair, P-A-I-R, c'est quelqu'un qui est votre égal.
C'est ça.
On aime bien les chiffres pairs aussi, hein, c'est l'égalité, alors qu'un pair, c'est par définition inégal. C'est intéressant, parce que, sans parler de dire que, pour les anglo-saxons, peer a un avantage, c'est que quand on est pair du royaume... C'est un titre très haut. Donc il y a une espèce de confusion intéressante là, sur le peer-to-peer que les sociologues emploient aussi beaucoup quand on parle avec des populations dans les enquêtes sociologiques qui sont des populations techniquement égales, hein, que ce soit d'origine sociale, intellectuelle, etc. On fait du peer-to-peer. Quoi. Ça, c'est très important. Mais cette évaluation par les pairs, surtout quand le système est ouvert, peut éviter les chapelles. Parce que si je comprends bien... Derrière la manière dont les revues scientifiques sont constituées et publiées, il y a la notion de chapelle. On parlera du marché aussi après.
Mmh. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des chapelles dans l'hydraulique des plantes ?
Alors.
Est-ce qu'il y a de grandes oppositions dans votre secteur ?
Il y a toujours eu de grands débats dans ce domaine. Actuellement, il y en a un qui fait rage depuis 5 ans sur. La véracité de certains types de mesures, mais oui, je dirais que oui, un petit peu comme dans tous les domaines, il y a des débats. Alors peut-être que il y a des débats assez animés dans le domaine, finalement, puisqu'on a pas mal de réponses via des articles interposés. Et il y a même eu, en 2014, une conférence organisée par un laboratoire allemand afin de réconcilier un petit peu les différentes visions de différents laboratoires.
Les deux formes de courbes dont vous parliez tout à l'heure.
En vain, oui. oui, les deux formes de courbe, oui.
Ouais. Bon, ces deux formes de courbe, on revient un petit peu en arrière, vous pouvez expliciter quelle différence fondamentale d'approche ça suppose.
Oui, alors là, on sort de l'audition scientifique.
Oui, mais ça fait partie de l'audition scientifique. Hein. Vous êtes des chercheurs qui publiez aussi. Quoi.
Donc, quand on mesure la résistance à la sécheresse d'une plante, lorsqu'on obtient une courbe en S, c'est-à-dire qu'elle commence par un plateau, c'est-à-dire que la plante n'est pas sensible à la sécheresse au départ, et puis ensuite, on dit qu'on observe de l'embolie, hein, comme dans l'embolie pulmonaire, il y a des bulles d'air qui arrivent dans les vaisseaux de la plante et qui rendent ces vaisseaux impropres au transport de l'eau. Donc cette plante, on observe de plus en plus d'embolie, jusqu'à 100% d'embolie, au moment où elle ne peut plus transporter d'eau du tout, et c'est la mort du tissu, c'est la mort de la plante. Les Américains, eux, observent, font les mêmes types de mesures, mais avec des appareils différents, une technique différente. Ils observent des courbes en R, c'est-à-dire que dès le départ, ils observent une très très forte, un très fort degré d'embolie, et donc une perte très rapide du fonctionnement en fait, des tissus de la plante. Et pour nous, nous avons publié que c'était un artefact de mesure lié à la technique qu'ils utilisaient. Pour eux, pas du tout, c'est un processus biologique bien réel. Et donc ça conduit à des conclusions très très différentes. Pour eux, les plantes sont très très sensibles à la sécheresse, très très sensibles, enfin certaines en tout cas, mais sont capables de réparer via des processus un petit peu miraculeux derrière. Alors que nous, on considère que l'événement que j'ai appelé l'embolie ne se produit que dans des cas extrêmes de sécheresse, et donc les plantes sont majoritairement très résistantes.
Bon, voilà. C'est un débat assez extraordinaire parce que ça implique quelque part la disponibilité d'eau.
Oui, c'est ça, et puis ça a des répercussions très très fortes, notamment en agriculture. Notamment, on s'intéresse donc à améliorer par exemple la résistance à la sécheresse du maïs ou du blé ou des arbres. Pour les Américains, il ne faut pas s'intéresser à la résistance à l'embolie, mais plutôt comment il faut réparer l'embolie. Or, nous, on considère que ce qu'ils observent est un artefact, donc ils cherchent, en fait, par exemple, des gènes impliqués dans un artefact. Donc, pour nous, ça nous semble complètement aberrant.
Alors, sans jeu de mots aucun, la courbe en R implique que derrière, il y a l'idée de repair, de réparation.
Ouais, c'est ça, oui, exactement.
Et avec, en plus, c'est intéressant. Parce que
on dit exactement « refilling ». Bah, on re-remplit les vaisseaux, exactement, oui. Mais R, c'est vraiment la forme de la courbe, hein, aussi. Ça tombe bien. Il y a aussi le terme rubbish. Voilà, si on continue les jeux de mots.
Très bien, très bien. Voilà. Non, parce qu'une courbe en R, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dans différents domaines, c'est cette apparition brutale d'un phénomène et puis sa disparition tout aussi rapide qui implique la mort. C'est très surprenant.
C'est ça. C'était assez éphémère, en fait. Et donc, il y a, oui, ES pour être smart, par exemple. Smart versus rubbish. Comme...
Voilà, très bien. Voilà, c'est la preuve que... Oui, c'est dommage, parce qu'en français, rubbish, je ne trouve pas d'équivalent. Réparation, ça va, mais rubbish... rebut, si, ça va.
Oui, rebut.
Rebut, après tout. On pourrait se battre. On pourrait se battre là-dessus. Bon, alors, le classement des revues scientifiques, vous en avez parlé... Ce classement des revues scientifiques, derrière l'excellence, qui est ce que je recherche tous les chercheurs, bien sûr, il y a quand même une histoire de marché là-dedans, et que l'Internet a peut-être multiplié ou au contraire réduit.
Alors, Internet, finalement, a multiplié le nombre de journaux, et du coup, le nombre d'abonnements possibles, et donc le marché a explosé. Il y a de moins en moins de sociétés privées, mais elles font un bénéfice incroyable, c'est-à-dire qu'elles font plus de marge que Coca-Cola, par exemple, un petit peu moins qu'Apple. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont annoncé que c'était la plus grosse marge de tous les temps.
Oui.
Mais je pense qu'elles sont plus proches d'Apple que Coca-Cola, c'est-à-dire qu'ils font une marge extrêmement forte, pour des raisons très simples. Ce sont les chercheurs qui cherchent l'argent pour mettre en place un projet, les instituts ou les universités qui payent. Le chercheur passe son temps, et donc il est payé par l'université ou l'institut, à faire sa recherche, à analyser des données, à publier. Il envoie l'article à une revue dans laquelle c'est un autre chercheur qui est éditeur, à titre bénévole, qui envoie lui à des experts, donc on appelle les reviewers à travers le monde, qui sont aussi des chercheurs qui ne sont pas payés. À titre bénévole, ils passent leur temps à expertiser ces deux articles. Le chercheur reçoit les reviews. Si l'article est finalement accepté, il a la chance, il le publie. Et pour que son institut puisse le lire, il faut qu'il s'y abonne. Donc l'institut doit s'abonner à cette revue pour pouvoir lire les articles qui sont faits par
ces chercheurs.
Voilà. Donc le système est complètement aberrant. Mais ces sociétés privées s'accrochent à ça depuis maintenant plusieurs années, et je dirais que c'est aussi la faute des chercheurs qu'il n'y a pas vraiment de rébellion pour essayer de changer le système. C'est-à-dire que les gens... Il y a tellement cette course à la publication, parce que c'est important pour la carrière, que les gens continuent à vouloir publier dans ce qu'ils considèrent être des bonnes revues, et sans en fait se poser la question de l'importance de changer de système.
Quand vous disiez que le retour sur investissement, entre guillemets, était supérieur dans le monde des revues que chez Coca-Cola, il y a quand même une taille du marché. Est-ce que c'est un marché énorme?
C'est énorme.
Parce qu'aujourd'hui, on le sait, en nombre de visites.
Alors,
dans les
j'ai
sites.
Je n'ai pas révisé en devenir, mais je ne vais pas vous donner de chiffres pour ne pas dire de bêtises, mais c'est énorme. Oui. Je ne me souviens plus, mais c'est très très important.
Bon, est-ce que ça veut dire que l'accès à Internet est commandé par certains serveurs, par certains distributeurs, ou qui pourraient mettre des barrières pour éviter que...
Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a deux ans, l'université prestigieuse d'Harvard avait décidé de ne plus s'abonner chez Springer, hein, donc peut-être 8000 revues ou 10000 revues, je ne sais plus, chez ce publisher. Parce qu'il leur demandait non plus 20 millions, mais 25 millions pour l'abonnement d'une année. Et donc, ils avaient décidé que le taux d'augmentation de 5 millions sur 20 millions était énorme. Et donc, ils avaient demandé à tous leurs chercheurs de ne plus jamais publier dans toutes les revues qui étaient éditées par Springer. Donc, finalement, Springer est revenu sur la décision. Ils ont fait une offre commerciale, etc. Et donc, c'est business as usual. On continue avec les mêmes.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse des grandes universités et instituts de recherche pourrait être la publication directe grâce à Internet? C'est un petit peu ce que vous essayez de faire.
Alors, voilà. Dans notre démarche, en fait, c'est une démarche de réappropriation de l'édition scientifique. Notre souhait, c'est que les instituts, les universités, aillent jusqu'au bout de l'édition scientifique. C'est-à-dire que mon institut, l'INRA, paye mon salaire, paye aussi certaines de mes recherches, même si ça arrive surtout les fonds de le fonds européen. Enfin, c'est l'Europe ou l'État qui paye. Et puis finalement, au tout dernier moment, au moment où on a analysé les résultats, on a rédigé l'article va être publié, il n'y a plus qu'à le mettre en ligne, enfin le formater un petit peu, puis le mettre sur Internet. Donc c'est vraiment, maintenant le coût est infime, on ne va pas publier des exemplaires par millions en format papier. Et bien tout ça nous échappe, et ça part en des mains de sociétés privées qui, elles, se font vraiment de gros bénéfices sur le dos des scientifiques. Mmh. Et donc on demande en fait à notre institut d'aller jusqu'au bout, et c'est juste un petit peu plus, c'est-à-dire mon salaire il est déjà payé, donc je peux passer un peu de temps à faire de l'édition scientifique. Le journal peut être hébergé par le serveur de l'INRA, et puis si l'INRA peut mettre aussi un salaire d'une personne pour gérer au quotidien
l'ensemble
ce journal, je pense que ça reviendra beaucoup moins cher, sachant qu'à l'INRA par exemple le coût des abonnements, je crois, il est de 4 millions par an, donc uniquement dans un domaine spécialisé qui est l'agriculture et la forêt. 4 millions par an, c'est à peu près la même somme qui est donnée par l'INRA pour le fonctionnement de mon département d'écologie au niveau national, où il y a plus de, je ne sais pas combien, 250 personnes. Donc, vous voyez, on a, à l'heure d'aujourd'hui, le coût pour lire les articles peut être néfaste pour réaliser nos recherches. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre est-ce qu'on continue à faire de la recherche ou est-ce qu'on lit nos articles. Vous voyez ce que je veux dire, hein, si je pousse un petit peu le...
Tout à fait. Bon, la question du public que se pose tout système de presse qui décide d'éditer un journal, une revue, ne se pose pas à vous. Vous avez un public déjà ciblé.
Oui, complètement. C'est majoritairement des scientifiques et des journalistes. Mais c'est 98%, ce sont des scientifiques qui lisent nos articles.
Et votre revue, pour se faire connaître, n'a pas eu de mal, puisque vous connaissez à peu près complètement la liste des chercheurs qui travaillent dans l'hydraulique des plantes.
C'est ça, ça a été diffusé à peu près à 1500 personnes à travers le monde au moment du lancement, en janvier 2014. C'est très récent, elle a uniquement 12 mois. Et donc ça, il y a après 5 mois, on a déjà eu des premières soumissions, puisque bon, il faut le temps que
la
science ait une certaine inertie, hein, entre le moment où on fait les expérimentations et où on les publie. Et à l'heure actuelle, donc ça a bien pris, donc on espère que ça va pas prendre plus vite parce que pour le moment on n'est pas armé, on n'a pas une équipe assez importante pour pouvoir gérer un flux massif d'articles qui arriverait,
bien sûr, bien sûr.
Puisqu'on nous sommes trois bénévoles pour le moment à gérer la revue. Et on demande aussi aux auteurs de formater leurs articles, c'est-à-dire qu'ils ont un petit travail en plus à faire, mais c'est gratuit, hein, tout est gratuit, et ils doivent formater l'article selon en fait un template qu'on met sur le site web, qu'ils téléchargent et puis ils copient-collent leur paragraphe une fois que l'article est accepté à ce format-là, et nous on n'a plus qu'à l'arranger légèrement et puis à le publier sur le site web.
Mais c'est déjà un très gros progrès parce que j'ai eu l'occasion de participer à la création de revues en matière de théâtre. On demandait aux gens d'envoyer des manuscrits formatés, mais c'était eux qui le faisaient. On leur donnait pas de modèle. On leur disait voilà, vous allez servir de tel bon système Word, oui. Tel, etc., etc. Là, vous avez à raffiner un petit peu.
Oui, alors il y a beaucoup mieux que nous. Hein. Il y a par exemple, je prends l'exemple de PNAS où c'est un système automatique où on copie-colle directement le texte et les figures dans certains endroits sur le site web et ça crée le PDF automatiquement. Donc si on avait un petit peu plus d'argent, on pourrait passer à ce système-là, puis il y a un système d'abonnement pour avoir accès à ce type de logiciel. Mais bon, c'est tout à fait possible.
Oui, ça veut dire qu'actuellement, il y a quand même un grand défi pour ceux qui font de l'argent sur les revues d'être progressivement chassé du marché.
Alors pour le moment ils s'inquiètent pas trop. Hein.
Mais ça veut dire qu'ils pourraient être amenés à fabriquer les outils dont vous me parlez.
Oui, alors ça existe déjà. Alors je voudrais aussi dire quand même que notre journal n'est pas révolutionnaire parce que il y a d'autres journaux qui ont eu la même idée. Alors, moi, je suis aussi éditeur dans la revue qui s'appelle Plus One, qui est une revue déjà qui avait une philosophie très très différente des autres, très très différente. Elle a sa philosophie, c'est alors on a une partie de JPH, la même philosophie, c'est qu'on accepte tous les articles, aussi bien à Plus One qu'à JPH, qui sont robustes, mais qui on ne juge jamais de l'importance en fait des résultats ou du message. Tant que l'article est correct, que les conclusions sont bien, comme on dit, supportées en anglais par les données,
oui.
On accepte l'article et il est préférable d'avoir cet article publié et accessible à un grand nombre plutôt que d'avoir des données qui dorment dans un ordinateur. Et la qualité de l'article sera jugée par le nombre de citations. Donc, on peut publier des articles, ils seront quasiment jamais cités, mais ils sont publiés et disponibles. Voilà.
Donc ça veut dire qu'ils sont répertoriés, donc si je tape sur mon moteur de recherche habituel, je pourrais trouver cet article aussi.
Voilà, exactement. Et donc là, ça c'est le point commun que nous avons, c'est que nous rejetons l'impact factor. Plus One et JPH n'ont pas d'impact factor. Et je dis bien ils n'en ont pas, parce que les gens me contredisent toujours en disant « Mais si, Plus One a un impact factor ». Non, Thomson calcule un impact factor pour Plus One, mais Plus One le rejette. Pour ces deux revues, on utilise un indice qui est différent, qui s'appelle le H5. Alors qui est aussi un petit peu biaisé, mais qui est bien meilleur que l'impact factor. L'impact factor fait que quand on soumet un article, on tente une revue d'un impact factor élevé, on nous dit « Ah, mais c'est un très bon papier, mais on vous conseille de le soumettre dans une revue plus spécialisée. » Quand on le soumet dans une revue d'impact factor inférieur, ils nous disent « Ouh, c'est un très très bon papier, mais on vous conseille de le soumettre. » Puis donc on fait ça 3, 4 fois, ça peut aller jusqu'à 5 fois, hein, certains articles. Donc ça peut prendre 2 ans. Avant que l'article soit publié lorsqu'il a été fini de rédiger. Donc là, il a été reviewé à chaque fois par 2 voire 3 personnes. C'est-à-dire qu'on occupe des chercheurs à expertiser des articles plusieurs fois. Enfin, c'est un temps perdu incroyable. Alors que chez Plus One, si on refuse un article, ça veut dire qu'il n'est publiable nulle part. On ne peut pas refuser un article en disant qu'on vous pouvez le soumettre dans une revue plus spécialisée. Non, soit il est bon, il est robuste, soit il n'est pas bon. On ne juge pas voilà, donc de la sexiness, hein, si vous voulez, de l'article. Et le H5, donc c'était l'indice qui permet de faire ça, c'est-à-dire que c'est le nombre de fois. Je prends l'exemple de Nature, par exemple.
Ouais.
Nature a un H5 de 370, c'est-à-dire qu'ils ont publié 370 articles au cours des 5 dernières années qui ont été cités au moins 370 fois. C'est la meilleure revue au monde en termes de H5. Ça veut dire qu'ils ont quand même des articles qui ont un impact très très fort, avec des résultats extrêmement novateurs. Mais ils publient aussi des articles qui ne sont jamais cités. Et donc, voilà, PLOS ONE est, je la crois, la 25e revue au monde en H5. Alors que si vous tenez compte de soi-disant impact factor de Thomson, il est relativement bas.
D'accord. Bon, vous êtes en train de me dire qu'il y a une nouvelle définition du secteur qu'on a appelé pendant longtemps, qu'on appelle toujours la littérature grise. Hein, cette littérature qui n'accède pas à la publication. Alors, c'est tous les rapports officiels que tous les ministères du monde entier produisent. Quand on a la chance d'avoir le bon chemin, et même avec Internet, on n'y arrive pas nécessairement. Donc vous avez décidé de rendre possible la littérature grise, qui a nécessairement une qualité, c'est votre mot robuste qui le dit. Bon, alors, les échos, hein, on va terminer là-dessus, les échos de votre publication et de votre modalité de fonctionnement. Alors, combien de visites avez-vous ?
Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas trop les statistiques chez nous.
Non, mais je veux dire
je pourrais pas vous dire, mais...
vous avez des raisons d'être satisfait.
Oui, on est très satisfait. En tout cas, les retours que l'on a de nos collègues sont quasiment tous positifs. Tous positifs. Que ce soit les éditeurs qui contribuent les lecteurs ou des collègues qui ne sont pas lecteurs forcément parce qu'ils ne sont pas du domaine, mais qui considèrent que c'est une bonne initiative. À l'INRA, nous sommes suivis maintenant par la direction qui soutient notre effort, et puis également par certains départements, alors le département de santé des plantes notamment, on avait parlé un petit peu tout à l'heure, qui souhaite monter un journal soutenu par le département, avec un financement du département, pour s'affranchir un petit peu de tout ce système-là, quoi.
Ouais, toute dernière question à un scientifique qui est préoccupé par l'avenir et dans le secteur où vous travaillez. Le développement durable, l'écologie satisfaisante, c'est important. En termes d'archives, comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous n'avez pas peur que le virtuel,
oui,
dont nous sommes tous maintenant tributaires, ne pose pas de danger de disparition ? On n'est pas sûr, après tout, que même si on a des big data et des clouds, ça ne suffit pas.
Alors là, oui, c'est...
Est-ce que vous gardez en archive du papier ?
Oui, alors, non. Pas du tout. Mais alors ça, c'est une inquiétude, mais elle est réelle aussi pour les éditeurs privés. Hein,
bien sûr.
Ils publient uniquement bien aussi entendu. Online. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on a des archives nationales, qu'on appelle le HAL, qui permettent donc, à chaque fois qu'on publie un article sur notre serveur, on le bascule également dans le HAL, donc il est référencé. Après une semaine, Google Scholar, Google le trouve aussi également, et donc il est stocké aussi chez Google. Donc bon, il faudrait vraiment une catastrophe, mais je ne suis pas informaticien pour vous dire que ça ne pourrait pas arriver. A priori, on les retrouve un petit peu partout et c'est bien sauvegardé. C'est-à-dire que même si le journal s'arrête demain, c'est ce qui peut arriver.
Bien sûr.
Les articles seront toujours stockés et accessibles dans les archives nationales.
Bon, Sylvain Dalzon. Éditeur, co-éditeur, y a pas, vous êtes tous des éditeurs en chef, si je comprends bien, dans votre revue.
Ah non, les deux éditeurs en chef, voilà. Et 24 associés éditeurs.
Bon, dans votre temps est consacré à 80% de recherche et puis 20% pour cette revue, ou peut-être plus.
Oui, c'est difficile de compter, je fais plutôt ça le soir. Je fais de l'édition plutôt le soir. Au début, ça prenait beaucoup plus de temps que ça. Maintenant que ça tourne, je dirais moins de 20%. Mais au début, ça a pu me prendre peut-être 60% par moment, ouais, de mon temps.
Alors, même si cette revue est consacrée à des problèmes scientifiques pointus et faite pour des scientifiques, si vous tapez « Journal of Plants », comme en français sans E, PLNT, Hydraulics, YDAULICS, vous trouverez sur le net. Et si vous êtes un peu plus chercheur, vous cherchez sur Google Scholar, ça devrait marcher.
Oui, nous sommes référencés par Google Scholar, oui.
Merci beaucoup, Sylvain Dalzon.
Merci à vous.
Au revoir.